Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Everybody just clap your hands. Clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands. Come on, let's tell them how.
Nous sommes venus pour jouer. Voilà une intention qui émane de musiciens qui ont le groove dans la peau depuis des décennies. Et pour cause, ils ont été à différentes époques les partenaires de scène ou de studio du parrain de la soul, l'illustre James Brown. Ce collectif de virtuoses du funk s'appelle les JB's. Nous avons le plaisir d'accueillir quatre d'entre eux, Cynthia Moore, Fred Thomas, Tyrone Jefferson et Robert Thompson. Soyez les bienvenus. Welcome.
Thank you.
Thank you.
Merci. Thank you.
Vous êtes venu nous présenter aujourd'hui We Came to Play, votre nouvel album. S'agit-il d'un hommage à James Brown, d'une réunion de famille ou d'un effort pour perpétuer la tradition au 21e siècle? Tyrone.
I would say we picked the song written by Holly Ferris, our trumpet player. A song that we thought was kind of funky and exemplifies what we're trying to do. I wouldn't say it's dedicated to anything except for music, you know, funk. It was a good song. We decided to use it as the title cut. That's my two cents.
C'est tout simplement un album qui a été imaginé par Holly Ferris, notre trompettiste. Nous sommes pliés à ses choix. Il a proposé certains titres. Et puis, on voulait rendre cette musicalité funky comme nous savons le faire depuis toujours. Il n'y a pas d'enjeu particulier. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dédier particulièrement cet album à qui que ce soit. On veut juste faire du funk et proposer la musique que nous faisons depuis très longtemps. Dernièrement, vous animiez un stage de funk à Paris avec de jeunes musiciens en herbe. Au-delà de l'apprentissage, est-ce que vous avez tenté de leur parler de l'histoire de cette musique et de votre histoire peut-être, Cynthia?
Somewhat of it we did, well I did with the vocalists. And I did work with them, and they were very interested in different ways and pronunciations of how we sound out our music and things of that nature. So I tried to help. But our dialect is different from yours, and we worked through it, and we did pretty good. And I did tell them a little bit of history, and like in the song Man's World, it's like a story. And, you know, sing it as a story and tell it as a story, you know.
En effet, dit Cynthia Moore, j'ai longtemps parlé avec les jeunes chanteurs en herbe que nous avions durant ce stage. J'essayais de leur expliquer d'abord la prononciation de certains titres et de certaines paroles parce que, évidemment, nous n'avons pas le même langage. Donc, c'était assez particulier pour eux de trouver la bonne prononciation. Et puis, évidemment, j'essayais de leur expliquer l'histoire de certaines chansons. It's a man's world, ça veut dire quelque chose. C'est une chanson qui a une histoire. Et je voulais qu'ils comprennent cette histoire avant de l'interpréter, c'est ce qui me paraissait le plus important. En tout cas, vous avez fait forte impression à vos jeunes disciples lors de ce stage de funk accéléré. En voici la preuve.
Je trouve que c'est un privilège en fait de pouvoir rencontrer les musiciens qu'on joue avec James Brown, qu'on composait certaines des musiques qu'on connaît et qui sont samplées, qui sont réutilisées, qu'on entend encore régulièrement aujourd'hui.
Là on a quand même la chance d'avoir quatre musiciens de légende, hein, donc on va pas se cacher, c'est toujours bien, parce que c'est comme ça qu'eux ils ont appris et qu'ils sont devenus aussi bons. Mais ça va bien se passer, je pense que tant que voilà, il y a un esprit de groupe et puis le tout sonne bien, je pense que ça ira et pourra faire quelques concessions, puis ça sera jamais de toute façon aussi bien que ce qui ont joué, pu jouer à l'époque et savent jouer. Si, ils ont des automatismes de plusieurs années, nous on est un peu des novices par rapport à eux, donc c'est bien. Voilà.
Côté assez rigolo, c'est que c'est vraiment les gars que j'ai écouté toute ma vie en fait. Fred Thomas, voilà, j'écoute que ça depuis que je suis tout petit et là je le rencontre et je joue avec lui, donc rien que ça c'est assez délirant. Puis après ouais, bah, c'est de voir comment ils font en vrai quoi. En fait c'est des trucs que j'ai entendu un million de fois, genre pas de piste, hein, je l'ai vraiment beaucoup écouté. Et là de voir en fait comment il le joue vraiment, qu'est-ce qu'il avait dans la tête, et en fait bah, dans la tête il avait juste du groove quoi, et il était en train de danser et en train de rigoler quoi. C'est une musique qui est quand même pas mal improvisée, mais moi ça me rappelle assez en fait cette manière d'apprendre, la tradition orale africaine. Après moi je me considère pas forcément comme chanteur, j'aimerais le devenir, ça prend du temps. J'ai envie de faire ça tous les jours de ma vie, quoi. Clairement, si je le pouvais, je le ferais, quoi, volontiers.
De le faire, en tout cas, c'est une expérience, très enrichissante. Et voilà, ça aurait été très très bête de ne pas le faire, quoi. C'est une sorte de pression constructive.
Pareil, c'est une belle opportunité qu'il ne fallait pas laisser passer. En plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc c'est un beau cadeau.
Qu'est-ce que vous avez pensé de tous ces jeunes qui ont été réunis par l'association Cadence pour ce stage de funk, Fred?
Well, being with them, you know, and just watching them and how they tried so hard to absorb what we were trying to teach them, you know, or tell them about, and just like the bass players, the three of them, you know, they had different styles of playing, and but I tried to teach them about whatever you do, you know, like add your own self into it so you can make sure that you got you in it, you know what I mean? And I told them about recording, how to recordings, and not how to play too much. Just play just enough to make the groove roll good, you know, because we are bass players, you know, we're not drummers, horn players. You just, you know, it's like lay the bottom down, lay the funk. Because the guy asked me, how can I make my bass playing better? You know, so I had to explain to them, show them, you know, that, you know, what I did and how I made myself do what I did, you know. And it was good. It was good. They really paid attention, and I think they picked up on a lot of stuff that I was trying to convey to them.
J'ai essayé de leur expliquer qu'il fallait essayer d'absorber tout ce qu'on leur proposait. C'est-à-dire que je me suis retrouvé quand même face à trois bassistes qui avaient trois styles différents. Et je leur ai dit, soyez vous-même. N'essayez pas de m'imiter, soyez vous-même, essayez d'exprimer ce que vous êtes. Et je leur expliquais qu'il fallait se laisser aller à jouer, tout simplement. Et le groove arriverait de manière totalement spontanée. Soyez les meilleurs musiciens possibles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont été plutôt bons parce qu'ils étaient très attentifs à tout ce qu'on leur disait. Fred Thomas, vous qui êtes le doyen, puisque vous avez rejoint James Brown en 1971... Pensez-vous avoir la responsabilité de transmettre votre savoir aux générations futures?
Yeah, it's very interesting because like they was like at the age that I was when I like started with Brown. You know, I was a little younger than they are too, but when I started with Brown in 71, you know, all of his last major recordings that he did, you know, I was on those, you know, with Len Collin, Bobby Bird, the JBs, and James Brown. So it's a lot of recording that I done. You know, and I learned a lot from James Brown, you know, like, and I also taught them as the best thing in the world is discipline. What you learn with James Brown, I learned discipline. You know, if James Brown tell you to play do 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 play that for 10 minutes, don't change that. You know, you play just that and don't add nothing else, because if I add one note too many, I didn't dare you to play that, you know. Right away. What are you playing? I didn't tell you to play that, you know. So I taught them, I, you know, spoke to their class about stuff like that, you know.
Quand j'ai commencé avec James Brown, j'étais comme eux. J'étais un gamin. J'avais 21 ans quand je suis rentré dans l'orchestre de James Brown. Donc je comprends parfaitement ce qu'ils ressentent. Et puis j'ai enregistré quand même quelques disques majeurs. J'ai travaillé avec les GBs, avec James Brown. Il y avait à l'époque Bobby Bird. Enfin, ça faisait du monde. Et tous ces artistes-là ont enregistré ensemble. C'est une période incroyable. J'ai appris une chose, en tout cas, avec James Brown. C'est la discipline. Quand James Brown nous disait « on va jouer ce gimmick à la basse », il fallait que ce soit parfait. Et donc pendant 10 minutes, on jouait tout le temps le même riff. Et puis si je changeais ne serait-ce qu'une note, James Brown me disait « mais c'est pas du tout ce que je t'ai demandé, c'est pas comme ça qu'on joue ce riff-là ». Et donc il fallait reprendre et s'adapter exactement à ce que disait James Brown. Et c'est ce que j'ai essayé de transmettre à tous ces jeunes qui étaient là avec moi, essayer de leur dire « soyez disciplinés et essayez de faire la note parfaite ». Est-ce que le funk est un genre musical difficile à interpréter? What do you think, Robert?
Well, I think funk is a soul groove, so it's not difficult when you can just feel it. So it's definitely a feeling. And I think everybody has soul.
Je pense que le funk, c'est du soul groove. Ça veut dire que ce n'est pas si difficile à jouer à partir du moment où vous avez du feeling. À partir du moment où vous sentez la musique, ce n'est pas difficile de jouer du funk. C'est quelque chose qui vient de là, de l'intérieur. C'est de la soul music. Quoi qu'il en soit, quand on écoute Hot Pants, par exemple, ça semble si facile, mais tellement efficace.
1, 2, 1, 2, 3, 1. Hot Pants. Hey, Hot Pants. No. Smoking that hot pants. That bar is at. The night bar is at. Take your pants off on. It looks much better time. My feet will keep going. Girl, blowing my mind. Thinking of losing that funky feeling, don't. Cause you got to use what you got to get just what you want. Hey. Hot pants make you shield yourself. Good God, you won't break. You got the only love left. Hey, so brother, if you're thinking of losing that feeling, then don't. Cause a woman got to use what you got. You don't get what you want. Hey! Hot pants won't make you dance, but as slick as you are, you make the pants.
Hot Pants, James Brown en 1971 avec à la basse Fred Thomas, l'un des fameux JBs et l'un de nos invités dans l'épopée. Est-ce que l'exigence professionnelle de James Brown est une valeur que vous portez en vous? Bien s'habiller, se comporter, parler avec respect, etc., etc. Cynthia.
Off stage and on stage, because there was, that was his thing. He always wanted his band to look their best, the women to look their best, whether they're with him or without him, because he just wanted you to project that image. He wanted us to be a very astute type person. We're carrying on his legacy. If he does it, he wants his people who are with him to do the same. Look good. And I mean, it does go a long way with that. Even at rehearsals, I mean, in the later years, he was more relaxed, but it's no, we couldn't wear sneakers or jeans or things like that. You'd get fined for that. We even had uniforms that were made for us so we could travel in them, the women and the men. Nothing too relaxing, like if you were at home. No, that was not allowed.
C'est exactement ça. James Brown imposait une discipline. Il fallait se montrer de la meilleure manière possible. Il fallait que les femmes qui étaient autour de lui aient un look sur scène absolument remarquable. Il fallait finalement projeter une image qui soit digne, qui soit celle de James Brown, un musicien professionnel. Et comme nous sommes d'une certaine manière aujourd'hui les légataires de tout cela, Nous devons nous-mêmes nous présenter de la meilleure manière possible. Et même pendant les répétitions, il était très très précis. Il s'est un petit peu calmé à la fin de sa vie, mais au début, je me rappelle qu'il fallait vraiment être très précis. On ne pouvait pas arriver aux répétitions en jean et basket. Non, non, il fallait être propre, présentable, il fallait avoir de belles robes, de beaux costumes. C'était véritablement l'image qui comptait et c'était très important. Cynthia Moore, le statut de choriste dans l'orchestre de James Brown a toujours été délicat. Martha High nous racontait dans cette émission qu'il fallait être discrète mais très présente à la fois. Est-ce que vous aviez beaucoup d'espace d'expression aux côtés de James Brown?
It took a little time to learn exactly what it was that he wanted us to do. I mean, he opened up a little bit later, you know. I eventually got a chance to come from behind the mic with the girls to do lead vocals with him. And he picks his time to choose you at certain times when he feels that you're ready. And it took a little while, so. And I went from being a bittersweet to one of the lead vocalists within the group along with Miss High. So she would have certain parts in the concert that he would do where they sing together as well as I. And eventually I came out to do one of the songs by myself, and that went for a while. And I was appreciative of him just letting me have a small part in the concert.
En fait, il m'a fallu du temps pour comprendre ce qu'il voulait réellement. Mais j'y suis arrivé finalement. James Brown vous observait. Au départ, j'étais dans les chœurs, mais je n'avais pas ma prestation à moi. Et puis petit à petit, au fil des mois, il s'est habitué à moi, il m'a observé, il voyait ce que je donnais. Et j'ai pu être moi-même, petit à petit, grâce à cela. Et trouver ma place, finalement, dans les chœurs qui entouraient James Brown. Diriez-vous que James Brown a été un chaperon pour chacun d'entre vous, Robert? Yes.
Oh, most definitely, you know, because he knew exactly what he wanted. And you had to have big ears with Mr. Brown, you know, because you had to listen to him. And he knew exactly where he wanted. You know, it was no guessing factor involved with working with Mr. Brown. And coming in the forefront with him, you just had to have tough skin and a lot of openness to hear what he had to say, you know.
I call it the University of James Brown.
Yes, sir.
No, I do. I seriously do.
Yes, JBU.
JBU. Right. I like that.
The James Brown University.
Absolutely.
Yes. Mm-hmm.
The world according to James Brown.
And I had this slogan I always said. I said, we all was in the army. You know what I mean? We had to march to his tune, to his beat. You know, that's what he wanted. If you couldn't do that, go home.
Go home.
Robert disait que progressivement, il nous a habitués à être très précis. Il savait exactement ce qu'il voulait. Et c'est vrai, il était un peu un mentor, un chaperon pour nous tous. Et il voulait qu'on le suive véritablement. Tyrone précise que c'était comme être un peu à l'université. D'ailleurs, on avait appelé ça le James Brown University. Il fallait avoir vraiment du talent et avoir la peau dure. Et Fred Thomas termine en disant « Non, non, c'est encore pire que ça. C'était l'armée avec James Brown. Il ne voulait voir qu'une tête. » Mais en même temps, ça nous a servi et c'est ce qui a fait de nous d'excellents musiciens. Cynthia, combien de temps avez-vous passé auprès de James Brown?
I started with Mr. Brown in 91 and still here today.
Je suis entré dans son groupe en 1991 et je perpétue justement cette tradition depuis cette époque. Vous apparaissez, Cynthia Moore, sur l'album « Love Overdue ». Voici d'ailleurs un extrait de ce disque paru en 1991, Move On.
We got to move, move on.
Move On, James Brown en 1991 avec dans les chœurs Cynthia Moore, ici présente. Robert Thompson, vous avez été le dernier batteur de James Brown. Comment avez-vous vécu cette époque? Est-ce que vous avez vu l'homme vieillir? Et est-ce que les rôles ne se sont pas inversés? C'est vous qui deviez le soutenir finalement.
Well, that was something that was I wasn't ready for when it's passing, you know, and during that time, you know, Mr. Brown had time when he would get sick, but you couldn't tell. At the same time, you know, it was a support system all the way around. He definitely had the strength, you know, and we looked for him to whatever it was. We had to have that strength with him. So, but he was the man with the strength. He was the power.
Vous savez, nous n'étions pas véritablement prêts le jour où il nous a quittés. C'était vraiment une surprise. Et même quand on était avec lui, on ne sentait pas qu'il était vieillissant, malade. Il avait une puissance, une force de caractère qui faisait qu'on était toujours là avec lui et il fallait absolument qu'on soit vraiment dans l'histoire. Il ne fallait rien lâcher. C'est vraiment ce qui était le plus important. Donc il avait cette puissance et cette force jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que nous l'avons ressenti. On dit souvent qu'avec les années, on acquiert la sagesse. Diriez-vous que James Brown était un homme plus sage à la fin de sa vie, Fred ou Tyrone?
Well, I think that maybe in the sense that he was becoming a wiser man. But I think he had more people around him that he felt like he could trust, even with me. Like, you know, he lightened up. You see, you know, like give you like maybe a hard time sometimes, you know. But then his last years, you know, maybe so 4, 5, 6 years before he died, you know, he started opening up more to the guys in the band and whatnot, you know, like sitting down with them more, inviting them to his room, come up in jail, come up and have a little drink of champagne or something with him, and stuff he never did back in the years, you know. But I let Tyrone say something.
No, I agree. I didn't always see eye to eye, so I probably never did a full year with Mr. Brown because I had different ways of thinking about things. But he was really a genius. It's just sometimes it was just hard for me to stay there and do certain things. So I just leave it like that. But near the end of his life, you know, I'm really, really glad. I'll tell you this one quick story. We did something at the Apollo. I thought my bread was supposed to be one thing. When I got Mr. Bobbitt paid me, it was cut half. I said, no problem. 3 years went by. Every time the office would call, I'd say, I'm not interested in coming. If he was on TV, I didn't look at it. This may be too much for your listeners, but it's a true story. So in 2006, the office called, said we're doing something in Los Angeles with Christian McBride,
yeah.
And Mr. Brown only wants you. And he said, what will you charge? I gave some outrageous number. I said, he won't do that. Mr. Bobbitt said, let me call you right back. Mr. Brown said he'll pay it. And I'm glad I did it, because 3 months later, he had transitioned.
Alors d'abord, Fred Thomas nous dit que James Brown était peut-être un homme plus sage à la fin de sa vie, mais surtout, il a progressivement changé et il accordait plus de confiance à ses musiciens. Il se reposait davantage sur nous. Les 5 dernières années, je l'ai vu changer, il s'ouvrait davantage, il nous parlait plus de ses problèmes, et voire même, parfois, quand on se retrouvait backstage, il nous offrait une coupe de champagne, chose qu'il ne faisait jamais dans les grandes années de James Brown. À la fin de sa vie, il était plus ouvert, peut-être un peu plus doux, et il comprenait mieux les choses. Et puis Tyrone Jefferson précise qu'il a travaillé avec James Brown, mais à des périodes différentes. Et il n'a pas passé des années entières avec James Brown. Il peut dire en tout cas que James Brown était un génie, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il a constaté une chose, c'est qu'il était prévu un concert à l'Apollo de Harlem. Et Tyrone Jefferson hésitait, disait « oui, oui, peut-être, je ne sais pas, on verra ». Il laissait un peu courir. Et puis, au bout d'un moment, il a appris que Christian McBride était partie prenante de cette histoire. Et on l'a rappelé à nouveau et il a dit « d'accord, mais combien il me paye je voudrais savoir ». Et puis « oui, tu seras bien payé, il n'y avait pas de doute ». Et j'y suis allé. Et j'ai participé à cet événement. Et 3 mois plus tard, James Brown n'était plus. Et je me suis dit « finalement ». J'ai bien fait de participer à ce grand concert final de James Brown. We'll be right back. Soul Power, le classique ultime de James Brown par les JB's en 2019. Je rappelle que l'album We Came to Play est disponible sur le label Say It Loud Productions. Merci à vous quatre d'être passés nous voir ici à Paris.
Thank you for having us.
Thank you for having us. Thank you so much.
Avons-nous oublié quelqu'un dans cette émission, Tyron?
Well, yeah. I mean, if it's a university, think about it. I was in the graduating class of blah, 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 blah. But there were graduates before me and who set the tone, even before Fred. You know, like, so Fred learned in the tradition of the bass player before him. For trombone player, it was Fred Wesley. For saxophone players, it's got to be Maceo Parker and Pee Wee Ellis. Yes. You know, we keep going for those graduates of the James Brown School that came before us. We're like the Pee Wees.
Vous savez, je parlais tout à l'heure de la James Brown University, l'université James Brown, et il ne faut jamais oublier qu'avant nous, il y en a eu d'autres. Fred Thomas s'est forcément laissé influencer par les bassistes qui l'ont précédé dans l'orchestre de James Brown. Pour ma part, en tant que tromboniste, dit Tyron Jefferson, c'est évidemment Fred Wesley qui était le directeur musical de James Brown, comme vous l'êtes aujourd'hui Tyron Jefferson. Et puis pour les saxophonistes, on pourrait penser à Maceo Parker, Pee Wee Ellis, tous ces gens-là. Donc oui, il est évident que nous faisons partie d'une histoire qui ne cesse de se poursuivre.
Absolutely. Anybody should go online and just check sort of like the graduates. I didn't mention Sinclair Pinkney. There's a bunch of us that were great, especially for drummers. Jabbo and, you know, Clyde, Melvin Parker, all, you know.
Oui, je pourrais continuer comme ça encore très longtemps parce que il y a par exemple parmi les batteurs Jabbo, il y a Clyde Stubblefield. Mm-hmm. Moi, je pourrais aussi vous parler de Sinclair Pinkney. Enfin, il y en a plein. Donc c'est une histoire qui ne cesse de se poursuivre et on doit beaucoup à ceux qui nous sont précédés et peut-être que dans l'avenir, il y en aura d'autres qui reprendront le flambeau. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'être venus ici à Paris.
Thank you. Appreciate you having us, man. Yes, absolutely.
Quelques rendez-vous à noter avant de se quitter. Le festival Héritage avec un J, Mémoire vivante, se tiendra les 25, 26, 27 mai à Petit Canal en Guadeloupe dans le cadre des commémorations de l'abolition de l'esclavage aux Antilles en 1848. De nombreux invités animeront les colloques, concerts et prestations de cette 5e édition dont le thème principal sera le tambour K. Toutes les infos sur festivalheritage.com. Par ailleurs, je vous informe de la venue du bluesman Melvin Taylor le 25 mai au Pan Piper à Paris. Et je vous rappelle que le bassiste Richard Bonnat donnera deux concerts les 29 et 30 mai dans son club, le Nubia, sur l'île Seguin, près de Paris. L'émission du jour était réalisée par Sister Groove, Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.